Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc vous êtes les grands architectes de ce lieu, le Louvre, qui vient d'ouvrir. Plusieurs années ont été consacrées à la réalisation des travaux. Est-ce que tout s'est passé comme vous le souhaitiez ?
こう 何年もかけて、皆さんお二人でこう作ってきられた、ようやっと、完成ですけれども、どう期待通りの仕上がりになってますか？
そうですよね。フランスでは初めての体験だったですけども、すごく綺麗、良いものができたと思ってます。特にランドスケープとの関係はうまくいったと。
C'est vrai que c'était notre premier projet en France, hein, mais on est très content avec le résultat. On est surtout content avec la façon qu'il se marie avec, avec l'environnement du site.
Il y a deux choses, mais d'abord, それが大変あの大きなことの一つです。それからもう一つはやっぱりルーブルが持っている、まあ、6000年ぐらいにわたるアートで、それをどんなふうに新しく人々がこうそのアートに出会えるかっていう、その二つがあの重要な考えたことです。
Il y avait deux choses qui étaient très importantes pour nous. Premièrement, c'est la beauté de ce site. C'est un très beau site avec une lumière très douce et ça nous a inspiré beaucoup. Et l'autre chose, c'est la collection du Louvre qui traverse 6000 ans de l'humanité. Donc, le défi était de comment présenter cette collection dans une nouvelle façon, une nouvelle manière. Donc ces deux choses nous a motivés pour ce projet.
C'est le premier musée où on présente des œuvres dans l'ordre chronologique comme ça.
初めてあの時代を通して年次的にコレクションを展示する初めての美術館なんですけども、それについてはどう思われますか？
まあそれがだから。ルーブル美術館のコレクションというものが世界に他に例がないぐらいこう大きな時間を持っていて、それは我々もすごく興味を持って、それをどうやって現代の我々の社会の中で我々に対し社会に開くことができるかということをすごく大きな問題だと考えました。
Bah, la collection du Louvre, c'est vrai qu'il y en a très peu, ou c'est peut-être même le seul qui est tellement vaste. Et pour nous, c'était très intéressant justement d'avoir une collection qui traverse autant de temps. Et pour nous, c'était important d'ouvrir cette collection pour que ça soit pour aujourd'hui, pour les gens d'aujourd'hui. Donc, comment ouvrir cette collection, comment présenter cette collection pour qu'il y ait une continuité avec aujourd'hui. On a beaucoup travaillé sur ça.
Alors, les œuvres qui sont présentées ici, on va dire, sont immortelles et vont traverser le temps. Est-ce que ce musée est fait aussi pour traverser le temps ?
ここにある作品はもうある意味、不死身の永遠の時を超える作品ばかりですけれども、この美術館も時を超えるものだというふうに感じられますか？
そうですね、そういうふうなものにあのなりたいですし、特にこの、ここの地方の、すごく柔らかい光を作って、建物がこうの光をディフューズしていく、でつまりそのなんか溶け込んでいきながら、それからギャラリーデトンもあのなんかどこかあの今まで知らなかったあのようなあの空間でこうアートがずっと続いて、でどんどんあの自分たちの社会時代に来るし、そこからまた先をずっと人々がこう感じることができるような場所になったんではないかと思っております。
C'est ce qu'on espère. C'est vrai que surtout en utilisant la lumière douce de cette région, nous avons travaillé beaucoup pour que la lumière soit diffusée dans cet espace et de créer un espace un peu mystérieux qui transcende justement le temps et qui qui a une continuité avec les œuvres immortelles, si vous voulez, et qui nous amène à aujourd'hui. Donc on espère de réunir tout ça dans cet espace en utilisant la lumière douce de ce site et de cette région.
Pour préciser la question, je voulais demander, cette construction, cet édifice est prévu pour durer combien de temps ?
この建物自体はこの先何年ぐらいこう継続して使えるものとして設計されたものなんですか？
ずっとあるといいですね。
J'espère pour toujours。
もちろん皆さんにこう好きになってもらえるとみんなが丁寧にずっと使い続けてくれる。そうするとやっぱり永遠にずっとあることができると思ってます。
On espère que les gens vont aimer ce bâtiment, qui vont le soigner et qui vont entretenir et que comme ça, ça va durer, durer, durer pour toujours. C'est ce qu'on espère.
Quelques mots sur vos prochains projets de construction.
次のプロジェクトについて少し語っていただけますか？
サマリテンというパリのデパートのプロジェクトにもかかってて、それが次の最大のものですね。
Le prochain projet, le plus important, c'est le Samaritain à Paris. Nous avons ce projet-là. Voilà, ça c'est notre prochain projet, oui.
D'abord frappé par l'unité du lieu. Et vous voyez aussi que les architectes donc, ont voulu rendre le plus transparent possible les murs, donc c'est essentiellement des tonalités de gris, avec cet acier brossé, vous voyez, au niveau des murs, donc qui fait que ça donne à la fois l'idée d'unité, on sait qu'on est là dans un espace qui est cette galerie du temps, qui présente l'ensemble des collections du musée du Louvre, et en même temps, donc, l'architecte, cette fois-ci muséographe, qui est Adrien Gardère, a eu comme défi à relever, à créer un rythme, en quelque sorte, c'est-à-dire comment présenter des œuvres dans un espace unique, parce que c'est plus simple, bien entendu, de le faire dans des petites salles, et de faire une succession de salles qui créent un parcours. Donc ça a un avantage, c'est que ça oblige à insister sur les continuités, c'est-à-dire de mettre en valeur justement ce qui unit les objets et les œuvres et notamment à créer des perspectives. Alors, donc comme vous le voyez, il y a des cimaises qui sont en centre du parcours qui ont une signification. Les cimaises, ce sont des espèces de murs, mais des murs autoportants comme vous le voyez, puisque aucune œuvre n'est accrochée au mur à proprement parler. Donc on a créé des fragments de murs en quelque sorte en centre de l'espace. Et dans ce centre de l'espace, à chaque fois, ça rythme aussi le rythme de l'histoire, puisque le principe est simple, donc il y a 205 œuvres de présenter, qui présentent l'ensemble des collections du musée du Louvre, toutes les techniques confondues, de la naissance de l'écriture vers 3500 avant Jésus-Christ, jusque les années 1850, c'est-à-dire la révolution industrielle. Donc dans ce temps long, il y a 6 millénaires d'histoire de l'art, il a fallu créer des respirations avec des œuvres jalons, qui sont des œuvres très marquantes de l'histoire de l'art et des civilisations. Ici au premier plan, le portrait du prince Goudéa vers 2100 avant Jésus-Christ, un peu plus loin, donc un élément du décor du palais du roi Darius vers 500 avant Jésus-Christ. Enfin voilà, des espèces de jalons en quelque sorte. Donc, et des perspectives. Première perspective, donc justement, le palais du roi de Perse Darius vers 500 avant Jésus-Christ. Deuxième perspective qu'on voit d'ici, donc l'Empire romain avec le portrait de Marc Aurèle, ici, donc vers 160 après Jésus-Christ. Troisième perspective, donc le tableau du Saint-Sébastien de Pérugin qui marque la rupture de la Renaissance vers 1500. Et quatrième perspective, donc la liberté guidant le peuple de Delacroix qui clôt la présentation. Et donc, ces éléments, ces œuvres jalons permettent comme cela, de manière assez subtile, de diviser la galerie en Antiquité, Moyen-Âge et temps moderne, mais sans, vous voyez, avoir à insister sur ces ruptures. Oui, le défi, il était là, c'est-à-dire à la fois de rendre sensible cette marche du temps, cette progression. C'est la raison pour laquelle donc, les architectes ont proposé cette règle du temps, donc, que vous voyez donc, sur le mur de droite, c'est-à-dire que plus on avance, plus on avance dans le temps. Et de l'autre, donc, il a fallu faire des choix, c'est-à-dire que c'est un vrai parti pris. toutes les civilisations ne sont pas représentées, tous les mouvements artistiques ne sont pas représentés, mais il s'agit donc, on assume cette subjectivité d'une manière de présenter les collections du musée du Louvre. Donc on a justement insisté sur les moments de dialogue entre les cultures. Hein. Donc par exemple, je vous en donne un exemple, hein, donc, au tournant du 4e millénaire, du 3e millénaire, hein, donc justement dans les années 3500, disons 2000 avant Jésus-Christ, c'est le moment des grands empires orientaux. Et on a mis en valeur donc, l'époque de l'Égypte des pyramides avec la période qu'on appelle Sumer, hein, en Irak actuel, qui est la naissance de l'écriture. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le choix de présenter tout à cette période, on a fait le choix de présenter ces deux civilisations. De la même manière, hein, autre exemple pour l'époque de la Renaissance, on a voulu mettre en parallèle la Renaissance italienne et la Renaissance de l'Europe du Nord, justement avec Pérugin, mais aussi avec des peintres comme Colline de Cotter, qui est un peintre qui travaille à Bruxelles vers 1500. Pas seulement parce qu'on est en Europe du Nord ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, mais parce que c'est aussi la réalité des civilisations qui sont contemporaines. L'Italie de la Renaissance est contemporaine de l'Europe du Nord de la Renaissance, qui a inventé une autre manière de voir la Renaissance. Donc voilà, donc c'est à la fois une progression dans le temps, mais avec un choix. Hein. Donc on pourrait reprocher les lacunes, j'espère qu'on mettra en valeur, au contraire, les moments de rencontre.
Bonjour.
Bonjour. Geneviève Bresse, je suis commissaire de l'exposition Renaissance, Révolution dans les arts en Europe, 1400-1530.
Voilà, donc cet espace dédié à la Renaissance, et il accueille des œuvres de quelle période précisément? Bon, la Renaissance bien sûr, mais quelque chose d'assez précis?
Oui, c'est très précis. On essaie de commencer vers 1400, effectivement, pour voir comment les choses vont changer. Ce n'est pas pour cela qu'elles sont ce qu'on appelle Renaissance très souvent, parce qu'on s'imagine que c'est toujours des choses inspirées par l'Antique. Non, il y a des transformations qui sont sur d'autres thèmes que l'Antique. Et alors on s'arrête vers 1530 parce qu'on ne veut pas traiter vraiment le maniérisme qui est une nouvelle renaissance, mais ça ne nous interdit pas de pousser plus loin sur des thèmes ou sur des techniques ou sur des éléments qui existent déjà dans les années 1400-1500 et qui vont se prolonger jusqu'aux années 1550-1560.
Les œuvres qui sont présentées, elles viennent de quel pays par exemple ?
Alors on essaye d'avoir des œuvres qui viennent du Louvre, en ce qui concerne le lieu de conservation des œuvres du Louvre, mais on a fait quelques emprunts parce qu'on avait très peu de livres. Donc on a des livres qui viennent de trois institutions, de trois bibliothèques, et on voulait aussi montrer un art de vivre avec des objets d'art. Et là on a fait un emprunt aux arts décoratifs à Paris et au musée de la Renaissance à Écouen. En ce qui concerne l'origine géographique des œuvres, on en a du nord et du sud, c'est-à-dire d'Italie, mais aussi d'Espagne, très peu, mais enfin un peu, de France, beaucoup de Flandre, d'Allemagne, avec, j'allais dire, nos deux grands héros qui sont très très présents, pour le sud, Léonard de Vinci avec la Sainte-Anne, et pour le nord, Dürer avec le grand triomphe de Maximilien, mais aussi beaucoup de gravures, un très beau portrait, etc. Donc on montre d'abord visuellement comment ça change dans le nord, comment ça change dans le sud. On va montrer visuellement comment des artistes du nord sont influencés par des artistes du sud, des artistes du sud par des artistes du nord. Donc ça, on va vraiment insister sur cette dualité, sur ce dialogue. Puis après ça, on décline comment on a représenté l'artiste, comment l'artiste se représente, comment on représente le corps et comment on le connaît, comment on représente le visage et comment on le montre. Comment on étudie la perspective, comment on rend l'espace. Puis ensuite, on a une grande série sur l'Antique, les Antiques connues pendant la Renaissance, les copies de cet Antique, comment on le dessine, comment on le copie, comment ensuite on s'en inspire, comment on fait des faux Antiques à la manière de l'Antique, comme l'Antique. Voilà, on décline tout cela. Et on le voit aussi, cette manière d'utiliser l'Antique dans des iconographies. Apollon, Vénus, le Triomphe, les divinités marines et l'ornement. Et on termine par les techniques nouvelles, la gravure, les arts du feu, l'émail, le verre, la céramique, l'horlogerie, une petite incursion dans une salle pour voir comment on installe une salle. Et on termine par François Ier parce qu'il a été le créateur de la collection royale, en particulier, il a possédé la Sainte-Anne de Léonard de Vinci, qui est notre joconde ici. et donc termine par François Ier comme créateur du noyau des collections du Louvre. Vous verrez ici un Louvre, vous ne pouvez pas voir au Louvre, parce qu'au Louvre, vous ne verrez jamais côte à côte une sculpture, une peinture, un objet d'art. Vous ne verrez jamais côte à côte une peinture flamande et une peinture italienne. Donc ici, vous avez des comparaisons qui vous feront comprendre que toute cette Europe vivait avec des dialogues interculturels importants, qu'il y avait mondialisation, mais pas pensée unique. Et donc, multiplicité, diversité, jeu des influences. Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes
Catherine Guillou, directrice de la politique des publics et de l'éducation artistique au Louvre à Paris.
Donc ici, au Louvre-Lens, c'est un lieu nouveau, donc on a pu concevoir, je pense, des choses assez nouvelles, assez révolutionnaires peut-être.
Ce qui est révolutionnaire, c'est d'avoir mis et placé au centre même de ce musée un espace qui est dédié à la compréhension de ce qu'est un musée et de comment cela fonctionne. Ce centre de ressources, dans sa globalité, est fait pour ça, pour comprendre de l'intérieur comment un musée fonctionne. Donc les réserves où nous nous trouvons ici sont visitables et visibles. Alors visitables parce que ce sont de vraies réserves et qu'elles doivent être maintenues dans l'état de qualité d'air, de température conforme à la conservation et à la protection des œuvres. C'est la raison pour laquelle elles ne seront visitables que sur rendez-vous avec des médiateurs, et sinon tout le reste du temps, on peut les contempler depuis cette grande baie vitrée qui permet de voir des œuvres en réserve sur un mobilier complètement adapté, avec de temps en temps, j'imagine, des conservateurs qui seront au travail pour déballer, emballer, s'occuper des œuvres. Et ensuite, il y a des éléments de compréhension supplémentaires installés sur les vitrines même de cette grande baie vitrée qui permettent de mieux appréhender ce que sont ces mobiliers et les œuvres qui sont installées dessus.
Alors avec des tablettes interactives où on peut justement mieux comprendre, mieux voir différemment les œuvres.
Absolument. Les tables tactiles ont pour objectif de comprendre d'où viennent les œuvres, quelles sont les différentes origines et les différentes manières de constituer une collection. Une autre table se concentre sur toutes les techniques de restauration. Et puis, une troisième table donne des indications sur, au fond, qu'est-ce que l'on fait de l'œuvre lorsqu'on veut la présenter au public. Donc c'est sa valorisation, c'est sa mise en majesté. Donc au travers de ces trois grandes tables numériques, qui sont des tables collectives, donc plusieurs personnes peuvent largement interagir sur chacune d'entre elles, on a tout le cursus, tout le parcours d'une œuvre. Et En contrepoint de cela, il y a ces grands panneaux où l'on peut voir, comme des hologrammes, au fond, en grandeur nature, les vrais professionnels des musées, avec la pluralité des métiers que l'on exerce dans un musée et qui expliquent, au fond, comment ils travaillent au Louvre.
Je vous remercie beaucoup.
De rien.
N'oublions pas le nombre de mineurs décédés avant l'âge de 50 ans par la silicose, par les séquelles de la mine, le nombre de veuves qui se sont retrouvées sans travail, sans aucun soutien de la cohésion nationale. Je crois que c'est une belle vengeance en effet sur l'histoire. Oui. En période de crise, je crois que pour réussir, il faut de temps en temps rêver à des jours meilleurs. Car si on sombre dans le pessimisme permanent, on ne peut pas se relever. Donc ici, le Louvre, c'est l'occasion justement de pouvoir penser à autre chose, pouvoir se transposer là où on n'a jamais vécu, là où, où est née la créativité des œuvres, c'est-à-dire dans les siècles, voire bien avant notre ère. Tout ceci nous permet d'oublier notre tracas quotidien et le musée s'y prête. Et puis ensuite, en sortant, on doit dire, ce musée m'a permis de me ressourcer, mais grâce à lui, peut-être que mon fils ou mon petit-fils trouvera du travail, parce que le Louvre est un joyau qui attire. Et je cite comme exemple, bien sûr, les hôteliers, les restaurateurs, mais également les activités de loisirs. Il n'y avait plus de cinéma à Lens, et il n'était pas question d'ailleurs que des investisseurs placent leurs économies dans un nouveau cinéma à Lens, parce que la situation financière de la population est extrêmement difficile. Tandis que là, les trois sociétés spécialisées dans les complexes cinématographiques, dont deux grands européens, Métropole Gaumont et Kinépolis, rencontrent mes services actuellement pour étudier la localisation d'un complexe cinématographique multisite, avec en particulier une salle de concert, des activités sportives, de bien-être, etc., sur le parking du Stade Bollard. Donc, le Louvre, c'est ça, c'est le cluster numérique de la connaissance. C'est la numérisation des œuvres du Louvre, mais aussi des musées européens pour lesquels Bruxelles a débloqué 160 millions d'euros. C'est de la part des responsables d'Eurotechnologie à Lille un potentiel de création de 15 000 emplois en 10 ans. Vous savez, il y a bien longtemps qu'à Lens, quand on crée 100 emplois, on ouvre une bouteille de mousseux parce qu'on n'a plus les moyens de se payer le champagne. L'emploi concrètement, immédiatement, c'est 250 emplois. Ça a été 600 emplois dans le BTP qui vont se transférer parce que du coup nous relançons de nouveaux chantiers, dont la construction d'un nouvel hôpital, tiens à le confirmer ici, l'hôpital de Lens est le deuxième sur le plan régional, la création d'un pôle multipolaire de la faculté de médecine de Lille, ce qui veut dire que, comme vous pouvez le constater, il y aura du travail pour le BTP, la création d'un tramway, autant de chantiers qui laissent une lisibilité de travail pour les 10 années à venir. Quand on entend ce qui se passe chez d'autres, à qui je pense d'ailleurs au moment où je parle, je suis solidaire avec mes collègues, mais aussi avec les salariés qui perdent leur emploi. Nous avons une traçabilité d'espoir. Ensuite, va se greffer, bien évidemment, tous les métiers dont je vous ai parlé, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, bien sûr, le loisir. On estime aujourd'hui, en fonction des contrats prénégociés ou compromis signés, que c'est entre 500 et 600 emplois. Moi, je préfère parler de métropole de l'Artois, ou de métropole minière, certains y tiennent. C'est-à-dire que nous allons nous unir avec les communautés d'agglomération de Lens-Liévin et Nacquarvin, Béthune-Bruay, Arras, Douai, et puis Nelémine et Marquion. Voilà, j'ai fait le tour. Ça représentera un peu plus de 500 000 habitants. Grosso modo, nous irons au fil du temps vers le million d'habitants, c'est-à-dire que nous atteindrons la capacité aujourd'hui de la métropole lilloise. Et ce que nous souhaitons, c'est que les deux métropoles aillent l'une vers l'autre, car Lens aura besoin de nos territoires et nous avons besoin de l'expérience de Lille. Ce qu'il faut, c'est s'appuyer sur notre histoire, ne pas en permanence ne vivre que de notre histoire. Moi, je suis d'accord pour qu'on rappelle la Grande Guerre, si douloureuse soit-elle, que l'on rappelle le choc charbonnier, que l'on rappelle, je l'ai fait moi-même, la dure vie des mineurs, mais que l'on rebondisse là-dessus pour donner une autre image d'espérance, une autre image aussi d'une ville qui se rajeunit, parce que Lens se rajeunit. Et quand je dis Lens, c'est l'agglomération de Lens-Liévin, bien entendu, les communes aux alentours, et que nous sommes une ville d'avenir avec une faculté des sciences, avec l'école des ingénieurs de l'IG2I, le génie informatique, avec un IUT spécialiste en communication avec plus de 1000 étudiants, avec l'institut qui va être porté par la Chambre nationale des métiers de formation aux métiers d'art, qui va s'installer près du Louvre. Bref, là, c'est l'espoir, c'est la rayonnance, j'oserais dire, d'une flamme qui aurait pu s'éteindre. Et puis, moi, je crois que, puisqu'on va mettre les terris en lumière pour mieux les valoriser, comme le dit M. Devigne, vous êtes un archipel de verdure, valorisé par la lumière ce qu'il vous apparaissait noir. Voilà les grands enjeux. C'est même sous la pluie et sous un ciel gris, je pense que nous deviendrons une région, la région minière, une région rayonnante.
C'est sur ces derniers mots du député-maire de Lens, Guy Delcourt, que se termine ce reportage consacré à l'ouverture du Louvre-Lens. Ce sujet était réalisé par René Lavergne de Radio Campus.